30 en octobre 1939, rentrant d'un reportage en Lorraine, j'intitulais mon article « Drôle de guerre ». Je ne me doutais pas du retentissement que la formule allait avoir. Roland d'Angelès. Ans d'histoire. Les Français l'ont appelée la drôle de guerre, les Anglais un semblant de guerre, une funny war, et les Allemands la Zitzkrieg, la guerre assise. Une période de 8 mois pendant lesquelles, le long de la ligne Maginot et de la frontière allemande, des millions de soldats sont restés l'arme au pied en attendant une bataille qui ne venait pas. L'ironie du sort aura donc voulu que le conflit le plus meurtrier de tous les temps commence par cette guerre étrange, sans ligne de feu, sans combat et sans mort. Drôle de guerre, en effet, démoralisante pour les soldats qui, le 3 septembre 1939, 2 jours après l'invasion hitlérienne en Pologne, avaient entendu le chef de leur gouvernement, Édouard Daladier, leur annoncer que pour la 2e fois en 21 ans, leur pays était à nouveau en guerre contre l'Allemagne.
Français et Français. Depuis le 1er septembre, au lever du jour, la Pologne est victime de la plus brutale et de la plus cynique des agressions. La responsabilité du sang répandu retombe entièrement sur le gouvernement hitlérien. En nous dressant, Français, contre la plus effroyable des tyrannies, nous luttons pour défendre notre terre, nos foyers et nos libertés. Je salue avec émotion et avec tendresse nos jeunes soldats qui peuvent avoir confiance dans leur chef, digne de ceux qui ont déjà mené la France à la victoire.
On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried, à nous le beau linge blanc.
Les vieux mouchoirs et les chemises en pampan.
En famille, on lavera tout ça.
On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried,
si on la trouve encore là.
François Cochet, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était une des chansons les plus célèbres de la drôle de guerre. On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried. La ligne Siegfried, je le rappelle, qui était au fond l'équivalent allemand de la ligne Maginot. Alors, on se remontait, on entend le moral comme on pouvait, hein, dans cette période entre septembre 39 et mai 40, cette époque à laquelle vous avez consacré un livre, Les soldats de la drôle de guerre. C'est quand même une expression assez curieuse, parce que même si on ne se bat pas, la guerre n'est jamais drôle. Qu'a voulu dire Roland d'Orgelès en inventant la formule de drôle de guerre?
Alors, je crois qu'il a voulu dire que c'était une guerre sans combat, effectivement, qu'elle était drôle, non pas au sens humoristique, mais qu'elle était drôle parce qu'on ne la comprenait pas.
Bizarre.
Elle était bizarre, voilà. Et je crois que la multiplication des expressions, le fait que l'on multiplie des expressions à l'envi, prouve que l'on ne comprend pas à l'époque, que les contemporains ne comprennent pas cette période. Vous avez rappelé comment les Britanniques appelaient cette guerre, la Funny War, c'est-à-dire que c'est aussi la guerre des rumeurs. Mais rien que dans les carnets de Jean-Paul Sartre, il y a un nombre incalculable d'expressions différentes, guerre introuvable, guerre à la Kafka, guerre fantôme, tout cela sont des expressions extraordinairement différentes qui révèlent la complexité de ces 8 mois. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de mort, mais si. Si, en 8 mois, il y a 1500 morts environ, et ça n'est pas rien quand même.
Alors, Saint-Exupéry aussi disait « guerre au ralenti », Paul Nizan disait « on m'a mobilisé pour la guerre c'est la bataille ». Or, je ne me bats pas, il faut changer la définition de la guerre. À propos de mobilisation, quel est l'état d'esprit, François Cochet, des mobilisés, des soldats français qui partent sur le front en septembre 39, date réelle du début de la Deuxième Guerre mondiale? Alors, est-ce qu'ils étaient aussi confiants qu'on l'a entendu dans la chanson de tout à l'heure?
Notre seule vraie maîtresse en histoire, c'est la chronologie. Et la chronologie nous indique quoi? L'état d'esprit des mobilisés français a considérablement évolué en un an, de septembre 1938, Munich à septembre 39. Septembre 38, c'est ce que Léon Blum appelle le lâche soulagement. Tout le monde est content de ne pas être mobilisé. Il faut se souvenir qu'il y a eu 5 mobilisations partielles, en tout cas depuis 1935. En septembre 39, l'état d'esprit est radicalement différent, je crois. Un des premiers sondages IFOP de l'époque montre que 74% des Français sont prêts à faire leur devoir pour empêcher toute velléité supplémentaire de Hitler, y compris la guerre. C'est-à-dire qu'on a retrouvé une fermeté de ton chez les mobilisés qu'il n'y avait pas en septembre 38, un an avant.
Puis il y a aussi la gravité de l'événement, parce qu'au fond, en 14, bon, la précédente guerre, c'est celle de 70, pas tellement meurtrière, tandis qu'en 1939, on se souvient justement de la guerre de 14 et de l'hécatombe que c'est. Et évidemment, d'ailleurs, ça se traduit même dans les stratégies. La hantise, au fond, de mourir des carnages de 1914.
Alors tout à fait, nous sommes 20 ans après, bien entendu, la fin de la Première Guerre mondiale, mais dans la déclaration de Daladier que nous venons d'entendre, il y a quelque chose de très intéressant. Il dit bien que la responsabilité de l'attaque est allemande, certes, mais la déclaration officielle de guerre est française. La France et l'Angleterre volent au secours de la Pologne comme les accords qu'ils ont avec elle le prescrivent. Mais du coup, c'est la France qui déclare la guerre. Et ça, c'est une différence majeure avec 1914, où la France avait été agressé diplomatiquement par la déclaration de guerre allemande. Et dans cette déclaration aussi de Daladier, il y a quelque chose de fort intéressant. C'est la reprise de la notion de défense de la terre, c'est-à-dire un rejeu d'attitude de 1914.
Oui, parce que justement, pour éviter les hécatombes de 14-18, les stratégies des deux côtés d'ailleurs, en tout cas du côté français, elle est défensive d'ailleurs, aussi bien du côté allemand avec la ligne Siegfried que du côté français avec la tristement célèbre ligne Maginot.
De la Suisse à Dunkerque, sur une longueur de 965 km, les Halles veillent. Derrière la ligne Maginot, forteresse invulnérable, l'armée française reste l'une des plus belles, l'une des plus puissantes. Ainsi, la France, confiante en sa force, peut-elle espérer en la paix.
Fraîche comme une fleur, jolie et bien faite, c'est une splendeur, quand elle passe, on s'arrête. Nous lui donnons un drôle de nom, Mamselle Maginette, parce qu'elle résiste aux assauts, comme la ligne Maginot. La Maginette a le cœur honnête, quand elle prend un gars dans ses bras, c'est pour lui dire, dans un sourire, on pense à toi, t'en fais pas. En Argonne, en Lorraine, en Alsace, la matine en riant nous attend. On arrive, on l'entoure, on l'embrasse, et tout le monde est content. La Maginette, c'est la conquête de tous les régiments.
Vous écoutez 2000 ans d'histoire sur France Inter, aujourd'hui la drôle de guerre et puis cette chanson d'époque, la Maginette de Monty, une Maginette qui résiste aux soldats comme la ligne Maginot a résisté aux Allemands, en tout cas jusqu'au 10 mai 1940. François Cochet, alors on a beaucoup brocardé cette ligne qui n'allait pas, contrairement à l'archive qu'on a entendu tout à l'heure, qui n'allait pas jusqu'à Dunkerque, justement elle laissait un trou béant au nord, là où les Allemands sont passés. Vous êtes plutôt indulgent pour cette stratégie défensive incarné par cette ligne de défense fortifiée qui est la ligne Maginot.
Ah, je ne suis pas indulgent, j'essaie comme historien de comprendre cette ligne défensive. Elle est mise en place à partir de 26. Jusqu'à 26, les plans d'attaque sur l'Allemagne étaient tout à fait offensifs. Et à partir de 26, et ça se renforce dans les années ultérieures, et c'est le poids de la démographie française, tout simplement, qui l'impose. La ligne Maginot va être là pour remplacer les poitrines françaises qui manquent par du béton. Et la ligne Maginot est construite pour empêcher une attaque frontale sur le seul point de contact direct entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire sur le Rhin. Et donc, la ligne Maginot va jouer son rôle, contrairement à ce que l'on dit. Elle joue parfaitement son rôle, puisqu'elle attire, elle est censée empêcher une attaque frontale sur le Rhin, donc attirer les Allemands en Belgique, c'est-à-dire réitérer le plan Schlieffen de 1914. Et c'est bien pour cela qu'il n'y a pas de fortification le long de la frontière belge. D'une part, parce qu'il faut que les troupes françaises puissent monter à la rencontre des Allemands en cas d'offensive allemande, et puisque les convenus, en gros, et les Belges sont pas tout à fait d'accord, mais c'est ça leur est imposé de fait. Les Belges restent neutres, et ça pose aussi un problème de comportement à l'égard de la ligne Maginot. Mais l'état-major français veut en fait que les futurs combats se déroulent en Belgique et non pas sur le sol français comme en 1914.
Les Allemands aussi, d'ailleurs, avaient une stratégie défensive à l'ouest pendant qu'ils attaquaient la Pologne. Il fallait éviter une offensive française sur le pays, d'où l'existence de la ligne Siegfried, François Cauchon.
Tout à fait. Cette ligne Siegfried qui n'est pas achevée non plus en 1940, qui va jouer un rôle, le seul moment où elle joue un rôle un peu important, c'est en 44-45, mais la stratégie est défensive des deux côtés, et là encore, on voit le rejeu mémoriel de 1914. Je n'oserais pas affirmer que les généraux de part et d'autre sont devenus pacifistes, mais ils sont en tout cas économes de leurs hommes, face aux tueries de 14-18. Et d'ailleurs, la chanson La Maginette est un étonnant rappel de la Madelon créée quelques mois avant, en 1914.
Peu connue, hein, cette chanson qu'on a entendue. Alors, autre point commun entre l'Allemagne et la France, c'est la propagande, à ceci près que la propagande allemande était dirigée, on le sait, par Goebbels, et que la nôtre était animée par un intellectuel, Jean Giraudoux, qui n'avait pas l'efficacité, bien sûr, des discours de Hitler, quoi qu'il en dise, dans cet archive du 22 septembre 1939, Jean Giraudoux.
La première phase de la guerre s'achève. L'Allemagne a devant elle non plus une paix dont elle est la maîtresse, mais une guerre dont la commande semble lui échapper. Vous en avez eu vous-même le sentiment en entendant l'autre soir le discours de Hitler. Sa voix ne porte plus. Alors que la moindre parole du président Daladier ou de M. Chamberlain trouve une résonance et une signification, la parole de Hitler semble maintenant à ses concitoyens décevante, à ses ennemis vide de sens. La guerre, pour la première fois depuis Napoléon Ier, est aux portes de l'Allemagne.
Alors pour soutenir le moral des Français, on aurait peut-être pu trouver mieux que Jean Giraudoux, François Cochet.
Tout à fait.
Il n'était pas à sa place.
Il n'était sans doute pas à sa place, et je crois que c'est un des grands échecs de cette drôle de guerre, c'est de n'avoir pas su faire partager le sens du combat, le sens des valeurs. Sur le plan de la thématique, le discours de Giraudoux est excellent, il faut combattre l'hitlérisme. Mais la légitimité du combat est bel et bien là, mais sur le ton. Bien évidemment, ce ton ne passe pas auprès des soldats. C'est un ton extrêmement compassé. C'est un français plus proche du XVIIe siècle que du XXe siècle. Et effectivement, les soldats mobilisés vont avoir bien du mal à accrocher aux propos de Jean Giraudoux.
Et Giraudoux parlait au moment où s'achevait l'invasion et l'occupation de la Pologne par les Allemands. Quel était l'état d'esprit? Vous parlez des soldats dans votre livre essentiellement. Quel était l'état d'esprit des soldats allemands pendant la drôle de guerre? Est-ce que il était le même du côté français?
Alors, on sait que le moral des soldats allemands a fluctué, tout comme le moral des soldats français, mais pas de la même manière. Je dirais d'une manière contracyclique, pratiquement. À la mobilisation du côté allemand, le moral n'est pas excellent. Il est même, semble-t-il, assez comparable à ce qu'il est lors de la mobilisation française. Les Allemands ne laissent qu'un rideau de troupes le long de la frontière avec la France, le long de la ligne Maginot notamment. Mais bien entendu, le moral du soldat allemand va considérablement évoluer avec la campagne de Pologne. Et il y a eu de graves dysfonctionnements dans l'armée allemande pendant la campagne de Pologne. Ce n'est pas une victoire aussi facile qu'on l'écrit assez fréquemment. Il y a eu une reprise en main très sévère. Il y a eu des fusillés. Il y a eu un entraînement intensif après la campagne de Pologne et une transformation, par exemple, des équipages de chars qui voient leur entraînement augmenter, et ce moral des soldats allemands est dopé en quelque sorte par la campagne de Pologne, c'est évident.
Vous semblez dire quand même, François Cochet, que finalement l'Allemagne n'est pas prête, une fois qu'elle a vaincu la Pologne, à se battre à l'ouest contre une armée beaucoup plus conséquente, qui est l'armée française, qui a une réputation considérable. Et d'ailleurs, Hitler, il faut le rappeler aussi, fait une proposition de paix, une fois qu'il a liquidé la Pologne, à la France et à l'Angleterre, qui refuse, mais en même temps, on a l'impression qu'il cherche à gagner du temps, et surtout, il prépare au fond, c'est c'est pendant cette période de la drôle de guerre qu'on a élaboré les deux plans de campagne qui vont s'affronter quelques mois plus tard, en mai 1940. Les Allemands, par exemple, changent leur plan et ce sera le plan qui leur donnera la victoire le 10 mai 40.
Tout à fait. Il faut comprendre qu'il y a deux camps au sein de la haute hiérarchie militaire allemande. Le camp des opposants à une manœuvre offensive sur les Ardennes et c'est ce camp veut une attaque mesurée et une attaque par la Belgique, c'est-à-dire donnant raison complètement à Gamelin. Et puis il y a le
Gamelin,
camp,
le général en chef,
le général en chef français, bien entendu. Et puis il y a un camp aventureux en quelque sorte qui est représenté par Guderian. Et Hitler va faire pencher vers Guderian et Manstein, mais seulement en février 40. C'est-à-dire que la décision de passer par les Ardennes ne date que de février 40.
Ouais. Et si l'ancien plan avait été gardé, on peut se demander ce qui serait devenu.
Ah, enfin, bien entendu, mais on ne fait pas de l'histoire virtuelle.
Du côté français également, François Cochet, on élabore le plan de bataille. C'est ce qu'appelle le plan d'Ille, le plan de Gamelin, un autre plan de bataille.
Alors, le plan d'Ille a été élaboré avant la guerre, mais en revanche, Gamelin a tenu compte des enseignements de la campagne de Pologne. Il y avait deux excellents généraux qui ont été chargés de mission en Pologne, qui ont observé les combats, et il a tenu compte notamment du couple char-aviation. Il donne des ordres à toutes ces unités, à toutes ces grandes unités, pour que ces enseignements de la campagne de Pologne soient pris en considération. Je ne suis pas sûr que sur le terrain, les entraînements des hommes pour lutter contre le binôme char-avion aient été véritablement mis en œuvre. C'est bien ça le problème.
Enfin, en attendant la mise en place de ces plans de bataille et leur fonctionnement, eh bien, on reste l'arme au pied, ce qui d'ailleurs démoralise les soldats, auxquels s'adresse encore Daladier le 1er décembre 1939.
La forme actuelle de la guerre peut dérouter les hommes les plus avertis. Elle ne répond en rien aux prévisions que l'on avait pu faire. Au lieu de se déchaîner avec violence sur de vastes fronts, au lieu d'être poussé à fond avec tous les moyens que la technique moderne met à la disposition des armées, elle en est encore, sur le plan terrestre, au stade de l'attente. Nous n'avions pas à prendre l'initiative de grandes opérations d'attaque. Mais ceux qui défendent leur sol et leur liberté doivent être attentifs à ménager le plus possible les sacrifices de vies humaines. Telle est la règle de mon gouvernement. Telle est la règle des chefs de nos armées.
J'ai toujours eu l'habitude d'avoir du monde tout plein. Quand je suis dans la solitude, comme les Anglais, j'ai le spleen. Alors je me suis fait moi-même une famille au régiment, en donnant un nom de baptême aux objets de mon fourniment. C'est un truc que j'ai lancé, dame, il fallait y penser. Ma bouffarde, c'est Victorine, le masque à gaz, c'est Gaston, ma gamelle, c'est Ernestine, mon flingot, c'est Cupidon. Ma cartouchière, c'est Pichenette, mon calon, c'est Baptiste, ma capote, c'est Nénette, mon bidon, c'est Rintintin. Ainsi jamais je ne m'ennuie, pour me distraire, j'ai le choix. Grâce à toute cette compagnie, j'ai du monde autour de moi.
Et c'était Fernandel, On n'est jamais seul, une chanson de 1939 qui exprime bien au fond l'état d'esprit, la façon, la vie quotidienne même du soldat sur le front pendant la drôle de guerre, François Cochet.
Oui, alors sur ces fluctuations du moral, du front, il y a quand même des chronologies qui s'imposent. Nous disions tout à l'heure que la mobilisation s'était faite dans un bon état d'esprit, mais rapidement, et le discours de Daladier en fait écho, rapidement il y a une détérioration considérable du moral. Parce que les soldats mobilisés pour se battre ne comprennent pas qu'ils ne se battent pas. Et là, il y a vraiment un échec de la démocratie française, me semble-t-il, à avoir fait comprendre le sens du combat. C'est-à-dire, c'était une guerre d'attente. C'était une guerre d'attente et on ne l'a pas suffisamment explicité aux soldats. Ils ont pensé qu'ils allaient se battre dès les premiers jours, comme en 14, et on leur demande de rester l'arme au pied. Et là, il y a une grande déconvenue, je crois, dans la stratégie des décideurs militaires comme civils. Donc là, on a ensuite une véritable dépression d'hiver, ce que j'ai appelé la dépression d'hiver, parce que le moral des troupes est lamentable à partir de fin octobre, début novembre 39.
Alors, les soldats ne sont pas nécessairement au courant de ce qui se passe, parce que pendant qu'on ne se bat pas, si je puis dire, encore qu'il y a eu des combats, on y reviendra dans quelques instants, mais il y a une très intense activité diplomatique. En fait, on se cherche des alliés. On profite de ce temps mort pour trouver des alliés. Et vous le rappelez d'ailleurs, François Cochet, en 39 et début 40, la guerre n'est pas une guerre mondiale. Seule, une fois la Pologne vaincue, seule, et puis la Finlande qui sera attaquée par la Russie, mais seule l'Allemagne, l'Angleterre et la France se battent, car ni les États-Unis, qui n'entreront en guerre que 2 ans plus tard, après Pearl Harbor, ni la Russie, qui a signé avec les Allemands le pacte germano-soviétique, ce qui va lui permettre à la Russie d'attaquer la Finlande avec la bénédiction des Allemands, ni même l'Italie et le Japon, qui sont alliés des Allemands dans le cadre du pacte tripartite, ne sont en guerre. C'est pas une guerre mondiale encore.
Ça n'est pas une guerre mondiale. Ceci dit, l'Union soviétique attaque quand même la Pologne 15 jours après les Allemands. Hein. Oui. Mais il y a effectivement des grands témoin, vous avez cité l'Italie, qui reste sur son camp à soi, tout en manifestant de plus en plus de sympathie pour Hitler, bien évidemment. Le Japon, de même, mais les États-Unis restent dans leur superbe isolement.
Ouais. Et la Russie, c'est quand même assez extraordinaire de penser que la Russie, là la guerre deviendra mondiale, à l'époque profite au fond d'une espèce de complicité, sinon d'alliance avec l'Allemagne, puisqu'ils se partagent la Pologne, puisque la Russie, sans que l'Allemagne ne bouge, sans que la France non plus ne vienne au secours de la Finlande, attaque la Finlande.
Oui, il y a eu des plans qui sont mal connus pour venir en aide à la Finlande, notamment pour fournir un corps aérien, mais qui n'a reçu aucune concrétisation réellement.
Alors pendant ce temps-là, on travaille beaucoup dans les chancelleries pour obtenir ces alliances. Cette guerre, qui est une guerre diplomatique aussi, est aussi une guerre économique. L'atout majeur sur lequel comptent la France et l'Angleterre, c'est le blocus qu'elles peuvent imposer à l'Allemagne parce qu'elles ont la supériorité sur mer.
Voilà, tout à fait. Les armées françaises estiment qu'elles ne seront pas prêtes à passer l'offensive avant 41, avant le printemps 41. D'ici là, il faut gagner la guerre économiquement en asphyxiant l'Allemagne. Et c'est la stratégie qui est mise en place, effectivement, le 3 septembre 39.
Parce que l'Allemagne, il faut le rappeler, manque de matières premières. Elle va par exemple, d'ailleurs elle se fera livrer du pétrole grâce aux Russes.
Grâce aux Russes, pétrole. Hein. Et les militaires français avaient aussi envisagé une opération complètement folle de bombardement des champs pétrolifères russes.
Dans le Caucase. Ouais. Alors de leur côté, les alliés eux-mêmes peuvent compter en revanche sur une aide matérielle. Les Américains la leur apportent, par exemple, hein, même s'il faut payer cash.
Cash and carry.
Oui. Hein, c'est-à-dire que
cette loi de neutralité, en quelque sorte, puisqu'il faut payer cash, effectivement, et seule la France et la Grande-Bretagne peuvent payer en or. Donc c'est une fausse loi de neutralité parce que la France et la Grande-Bretagne sont évidemment privilégiées dans la réception de matériel militaire.
Et pas mal d'avions, par exemple, on compte beaucoup hein, sur les États-Unis, notamment pour compléter. Un parc d'avions qui n'est pas suffisant. D'ailleurs, justement, j'ai dit au début, et c'est un peu faux, vous l'avez fait remarquer, il n'y a pas de combat. Il y en a eu. Il y en a eu sur mer, il y en a eu dans les airs, François Cochet.
Voilà, il y a une activité maritime intense, avec des mouillages de mines et des pertes alliées qui sont importantes, hein, 750 000 tonneaux de jauge brute. Et puis, il y a des combats aériens quasi quotidiens. Des avions d'observation français et britanniques vont survoler l'Allemagne, sont abattus. Il y a des combats aériens pratiquement tous les jours.
Et puis alors, il va y avoir une grande bataille quand même qui va se dérouler très loin de France, avant le déclenchement de l'offensive allemande. C'est une bataille dans le Grand Nord. Il faut peut-être rappeler ce qui s'est passé, François Cochet, pourquoi l'Allemagne a-t-elle envahi la Norvège et pourquoi la France et l'Angleterre sont-elles intervenues ?
Et le Danemark, durant les mois d'été en tout cas, le minerai de fer suédois transite par la Norvège et les Allemands ont voulu s'emparer en fait des ports qui livraient le minerai de fer. Et donc ils envahissent le 9 avril...
Le fer suédois, hein, qui transite par
Narvik notamment. Et donc les Allemands envahissent le Danemark et la Norvège, et donc il y a une réplique en quelque sorte franco-anglaise avec un débarquement qui est intéressant d'ailleurs au point de vue de militaire, puisqu'il annonce les grands débarquements de 4 ans ultérieurs, et un débarquement conjoint français-britannique. Il y a un corps polonais aussi qui se bat à Narvik notamment. Alors il y a un petit succès local français à Narvik, mais globalement, les opérations de Norvège penchent quand même largement en faveur de l'Allemagne et notamment de la Luftwaffe.
« La ligne Maginot attendait depuis 7 mois la ruée allemande. Mais tandis qu'Hitler hésitait à déchaîner cette guerre éclair dont il a si souvent menacé les alliés, le blocus autour de l'Allemagne se resserrait lentement et devenait chaque jour plus rigoureux, plus efficace. Le Reich voyait diminuer ses réserves de minerais, alors que les alliés, maîtres des océans, pouvaient en accumuler des stocks inépuisables. Se sentant menacée sur ce point vital, l'Allemagne entreprit une action contre la Norvège afin de s'assurer la possession des ports d'où sont exportés les minerais provenant de Suède. Les flottes alliées ont riposté immédiatement avec une vigueur, une audace et une habileté dignes des traditions navales britanniques et françaises. Tel est le premier résultat de cette victoire, annoncé officiellement par M. Winston Churchill à Londres, à Paris, par M. Paul Reynaud.
Et Paul Reynaud, qui avait succédé à Édouard Daladier en mars 1940 et qui est auteur de cette célèbre formule prononcée, je crois, fin avril, début mai 40, au moment où les alliés, la France et l'Angleterre débarquent en Norvège. Paul Reynaud qui a dit « La route du fer est coupée, l'Allemagne a perdu la guerre, on est à quelques jours de l'offensive qui va disloquer l'armée française. » On a gardé le moral pendant cette drôle de guerre jusqu'au bout ou est-ce qu'on a faim de le garder?
Non, les études d'opinion montrent qu'au contraire, le moral des soldats remonte avec le printemps. Et sur le mois d'avril 1940, par exemple, le moral est redevenu bon, mais différentiel. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même des unités, notamment des unités dites de série B, celles qui, comme par hasard, gardent les Ardennes, dont le moral n'est pas encore remonté de manière excellente.
En tout cas, cette drôle de guerre, ça a été quand même une guerre de la propagande, on l'a entendu, et jusqu'au bout, on est resté confiant, on a fait semblant de l'aide jusqu'au 10 mai 1940, le jour où Hitler lançait l'offensive qui allait écraser l'armée française en 6 semaines, le jour où la guerre n'avait plus rien de drôle. Merci François Cochet, on se quitte précisément avec cette dernière archive qui marquait la fin de la drôle de guerre le 10 mai 1940.
Une bataille gigantesque vient de commencer. L'Allemagne a jeté avec sa coutumière brutalité la plus grande partie de ses forces. La France calme, forte, unie, a entendu l'ordre du jour du général Gamelin qui s'adresse à elle autant qu'à ses armées. L'attaque que nous avons prévue depuis octobre dernier s'est déclenchée ce matin. L'Allemagne engage contre nous une lutte à mort. Les mots d'ordre sont pour la France et pour ses alliés, courage, énergie, confiance.
Je rappelle que mon invité François Cochet, donc l'auteur d'un livre passionnant, Les soldats dans la drôle de guerre, septembre 39 mai 40, un livre qui vient de paraître chez Hachette Littérature. François Cochet a également dirigé un colloque dont les actes viennent de paraître aux éditions 10-18, batailles emblématiques, combats oubliés, la Marne et la Meuse dans les combats de 14 et de 18. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1940, extraite du journal de votre année, distribuée en cassette vidéo chez Montparnasse Éditions. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en